podcast festival à la Gaîté Lyrique. Les débats.
Bonjour. C'est très bizarre. C'est très bizarre de parler dans un micro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière session de cette première journée du Paris Podcast Festival. C'est une session qui s'appelle « À l'écoute de la nature ». Et aujourd'hui, ensemble, on va parler de vivant, de biodiversité, d'environnement. Et on va essayer de comprendre comment on met ça en lumière grâce au podcast. Moi, je m'appelle Estelle Denegris, je suis chargée de communication au Paris Podcast Festival. Et je suis très bien entourée de Éric Leray. Éric Leray, tu es producteur et fondateur de Création Collective. Création Collective, c'est une boîte de production de podcasts. Tu es à l'initiative de plusieurs projets audio, Petite Graine, par exemple, Le Chêne et la Compagnie des Arbres, ou encore Pour que Nature Vive. Pour que Nature Vive, c'est le podcast dont on va parler ce soir, qui est créé avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Nathalie, toi, tu représentes ce soir Silence Podcast, qui est un podcast créé par Aurélien Frances. Toi, tu es réalisatrice de documentaires sonores pour Silence Podcast. Et Silence Podcast, c'est un podcast indépendant qui va mettre en lumière et qui va parler de grands espaces et qui va interroger des personnes qui vivent dans ces espaces reculés. Et c'est un podcast qui va recueillir des témoignages sensibles. Et toi, Quentin ? Quentin, tu es auteur et fondateur de La Vie Partout. La Vie Partout, c'est un projet qui est né à la base sur Instagram et qui évolue en divers formats, notamment le format du podcast. Et c'est un podcast qui se veut accessible à toutes et à tous pour faire comprendre le vivant et pour sensibiliser les gens vivants afin qu'ils le protègent au mieux.
C'est ça.
C'est ça ?
C'est ça.
Ok, super. On va commencer par toi, Quentin. Donc, La Vie Partout. La Vie Partout, oui. Tu peux nous en dire deux mots, peut-être ? C'est un format donc, qui est né sur Instagram. Tu es assez suivi sur Instagram, 200 000 abonnés, il me semble.
Oui, c'est ça, 240
ouais.
même.
Ouais. Bravo.
Alors, qu'est-ce que je pourrais raconter ? Je sais pas. Alors, j'ai créé La Vie Partout il y a 2 ans et demi. Sur Instagram à la base, et le but du projet c'était de faire comprendre le vivant qui est proche de nous, parce que souvent j'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de documentation, beaucoup de choses qui sont faites sur ce qui est loin de nous, c'est-à-dire on va avoir beaucoup de choses sur les récifs coralliens, la forêt amazonienne, etc. Alors c'est formidable, et souvent j'ai aussi remarqué que résultat on était très touchés par ce qui se passait très loin de nous, sauf que du coup on est vachement moins pour ce qui se passe proche de nous. Ça commence un peu hein, à bouger, mais j'ai remarqué, après, en fait, j'ai eu l'idée un peu de créer La Vie Partout, c'était après 2019, quand il y a eu les incendies en Australie, et que tout le monde était très touché par les incendies en Australie, parce qu'il y avait des koalas qui étaient brûlés, donc c'est triste, hein. Mais le truc, c'est que chez nous, il y a des trucs pas ouf qui se passent non plus, et étonnamment, on est moins touché. Donc je me suis dit, on est peut-être moins touché, parce qu'on connaît moins bien. Et donc du coup, j'ai voulu lancer donc, le compte Instagram. Le but, c'était de faire un peu une sorte de preview, intéresser des gens qui ne sont pas intéressés à la base par le vivant. Et sauf que Instagram, ils se sont mis à mettre des vidéos de 1 minute. Et moi, je faisais des carousels vachement longs qui demandaient bien 5 minutes à lire. Et ça ne rentre pas dans une vidéo. Donc, je me suis dit, très bien, je vais faire du podcast alors. Comme ça, je pourrais parler de plein de trucs. Et j'ai lancé du coup le projet La Vie Partout.
Et toi, du coup, dans ton podcast, tu prends en fait des sujets, de la base de fonctionnement de la nature. Tu vas parler, par exemple, de comment fonctionne un sol. Tu vas parler de comment renaît une forêt. Finalement, des choses vraiment très proches qui nous entourent. Et donc, tu vas partir d'un sujet chapeau, type la forêt, et tu vas aller petit à petit aborder des sujets plus complexes. Exemple, en abordant le terme de succession écologique. Ouais. Donc, en fait, tu amènes un peu une vulgarisation à ta façon pour que ce podcast il soit aussi accessible aux adultes qu'aux enfants, peut-être.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est que c'est d'avoir une question. Je trouve toujours que les questions sont presque mieux que les réponses. c'est que quand on pose la bonne question, en général, on crée de l'intérêt. Enfin, je trouve. Hein. Et donc, je me dis, bah, y a des trucs assez intéressants qui, moi, me passionnent, comme la succession écologique. Sauf que si je vous dis, je vais vous parler pendant 10 minutes de succession écologique, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont faire « ouais, ok, vu ». Alors que si on pose la question, genre, comment renaît une forêt, et qu'on le sort, j'en sais rien, après un incendie, ou alors qu'on parle de coupe rase, ou trucs comme ça, bah, je me dis, il y a plein de monde qui va être intéressé par ça. On va se dire, mais en fait, qu'est-ce que c'est la dynamique de ce truc, machin. Donc, j'ai l'espoir que ça suscite de l'intérêt. D'où le fait de parler de d'où vient le sol, et que comme ça, je peux créer si j'avais appelé la pédogénèse, bah, probablement que ça aurait moins intéressé. Voilà. Et puis d'un autre côté aussi, c'est des sujets sur lesquels moi je sais des trucs, mais il y a plein de trucs que je sais pas. Et donc du coup, c'est un super motif pour apprendre des choses. Et je me dis, bah, qu'est-ce que j'aurais aimé écouter pour connaître le sujet. Et le but c'est de susciter la curiosité. Moi, je me dis que le premier truc qui donne envie de préserver quelque chose, c'est la curiosité. Si on est plus curieux, en fait, on va avoir tendance à ne pas se poser des questions et à ne pas remarquer les choses qui disparaissent. Alors, les choses ne disparaissent pas, hein. On les fait disparaître, mais bon, ça, c'est... faut quand même, le mot disparaître, il est quand même bien gentil. Donc voilà, donc, je me dis, bah, plutôt que de dire « Oh là là, il ne faut pas couper la forêt, c'est mal !» Je vais plutôt parler de pourquoi la forêt a plein d'intérêts, entre guillemets, et que, qu'est-ce que fait la forêt, en gros. Et après, les gens seront tout à fait libres de se dire, bah, en effet, il ne faut peut-être pas la couper. Voilà.
On va écouter un extrait, peut-être, de ton podcast.
C'est sur les espèces ingénieurs.
Ouais, cet extrait il s'appelle Ces espèces qui transforment le monde.
Mais ce qui est vraiment fou avec le monde vivant, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est une synergie exponentielle. Quand une espèce ingénieure est installée, l'écosystème créé peut attirer à son tour une autre espèce ingénieure qui rebattra les cartes. Écoutez bien, vous allez voir. Ce que vous entendez ici, c'est un pic noir en plein travail. Cette espèce que nous avons déjà abordée dans les épisodes sur la forêt permet à la vie de s'établir dans les troncs des grands arbres. Ce grand oiseau est assez difficile à voir quand on se balade en forêt, mais son cri, lui, est très reconnaissable. Écoutez. Si vous l'entendez, vous pouvez tenter de vous en approcher. Et rassurez-vous, il est assez facile à reconnaître. Comme son nom l'indique, le pic noir est de la même espèce que le pic vert ou le pic épêche. C'est d'ailleurs le plus grand des pics en Europe et sa taille a de l'importance.
Et là, ça coupe. Pourquoi sa taille a de l'importance ?
Il est disponible sur toute la plateforme.
Non, donc du coup, maintenant, on sait reconnaître le chant d'un pic noir.
J'espère que c'est bien le bon. Hein. Oui, voilà, c'est l'idée. L'idée, c'est d'avoir une sorte de podcast à une voix, déjà parce que ça prend un temps de fou, mes acolytes en parleront sûrement mieux que moi, d'aller interviewer des gens. Et comme c'est un petit format et que je l'écris chez moi, bah, j'essaye de raconter cette chose-là. C'est un peu un pari, hein, de faire ça comme ça. Et je me dis, il faudrait que ça ressemble à une histoire racontée dans l'écosystème, où, voilà, un peu en immersion. Quoi. Et je suis accompagné d'un super ingé son qui s'appelle Hugo, et qui travaille sur toute la mise en son de tout ça, qui a une banque de sons énorme, qui met de la musique et tout. Voilà.
Donc c'est du son qui est recueilli dans la nature, du coup, ou pas du tout ?
Alors
c'est
ça
du
dépend.
Son qui est retravaillé après ?
Alors oui, il y en a, mais pas que. Il y a aussi des sons qu'il a récupérés, lui, en banque de sons, etc. Bah tiens, il est là-bas. mais pas que. Et je me balade maintenant avec un enregistreur pour aller tout enregistrer. Mais comme j'ai le compte Instagram qui me prend un temps de fou, bah, il faut qu'on ruse. Donc voilà, il y a plein de sons qui sont faits aux instruments, aux claviers, etc. pour ruser et essayer de faire en sorte de pouvoir sortir les épisodes sans que ça prenne des mois à sortir. Sinon, pour ma part, si ça dure des mois, ça sort jamais. Hein. Donc, donc voilà.
Ok. Alors, la vie partout, ça vient un peu en complémentarité finalement de Pour que nature vive. Dans le sens où ça a une volonté commune en fait d'apporter de l'apprentissage aux auditeurs et aux auditrices, d'avoir un œil un peu de pédagogie, de faire entendre le vivant. D'ailleurs, la devise de Pour que nature vive, c'est mieux comprendre le vivant et notre planète pour mieux la protéger. Ça va aussi dans le sens de la vie partout finalement.
Oui, c'est ça.
À la différence de Pour que nature vive, c'est que vous faites intervenir des scientifiques pour parler de vivant, de biodiversité. D'ailleurs, vous êtes déjà à la 5e saison de Pour que nature vive. C'est une saison qui se concentre sur l'océan. C'est un sujet dense. C'est un sujet aussi très passionnant. On va écouter un extrait qui s'appelle Les récifs coralliens et on va écouter la voix de Pascal Joanneau qui est océanographe.
Je vous ai donc dit que le corail était un animal. Mais il est malin, il s'est associé avec un végétal, donc ces petites algues qu'on appelle les zooxanthelles. L'association des deux va permettre au corail de mieux construire son squelette. Donc, le corail est un animal qui s'associe à du végétal pour former un squelette minéral en aragonite. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette symbiose ? Les zooxanthelles, comme tous les végétaux, font la photosynthèse. Donc, prennent la lumière du soleil et prennent du CO2, font leur cuisine, si vous voulez, de la photosynthèse, libèrent de l'oxygène et libèrent des sucres. Cela, ça sert à l'animal corail pour sa croissance, mais l'algue, la zooxanthelle, l'aide aussi à mieux capturer le calcium de l'eau pour fabriquer son squelette en carbonate de calcium qu'on appelle de l'aragonite. Donc lui, quand il capture sa proie, comme nous, quand on mange, on a des déchets. Ces déchets, ça sert à quoi ? Ça sert, entre guillemets, d'engrais pour ces petites algues. Et c'est la symbiose parfaite entre l'algue et le corail. Et c'est grâce à ça que les coraux ont en partie leur couleur lorsqu'ils sont bien vivants, et c'est aussi grâce à ça que le corail construit les plus grandes bioconstructions de la planète, qui sont les récifs de coraux.
Alors cet extrait il illustre très bien le propos du podcast Pour que nature vive, parce que finalement, Pascal Joanneau, elle fait de la vulgarisation scientifique, finalement pour faciliter la compréhension de processus complexes du fonctionnement du vivant. Donc là, elle va parler en fait, de la disparition des récifs coralliens. Elle va évoquer des termes spécifiques comme la bioconstruction, finalement pour, comme finalité, sensibiliser l'auditeur ou l'auditrice au fait que la nature est en train de disparaître. Est-ce que tu peux nous raconter, Eric, un peu la genèse du projet de Pour que nature vive et nous expliquer un peu comment ça s'est fait ?
Bonsoir. Comment ça s'est fait ? En 2019, je rencontre l'équipe du muséum. Et déjà en 2019, la crise environnementale est dans le débat public. Et on entend pour certains qu'on va droit dans le mur si on continue à faire n'importe quoi. Et par ailleurs, on a les apôtres du progrès qui nous racontent que la science va tous nous sauver. Et honnêtement, quand je suis dans le bureau de Bruno David, le président, moi je lui dis que je suis un peu perdu par rapport à la capacité de la science de nous sauver, ou en tout cas à la capacité de la science de nous apprendre du vivant. Et bah, le muséum, c'est 500 scientifiques aujourd'hui hein, qui, au quotidien, observent, étudient le vivant. Et donc, on s'est dit qu'il était vraiment légitime d'apporter un éclairage scientifique sur le vivant et également sur nos méfaits potentiels. Et voilà, et on s'est lancé donc fin 2019 à la conception de ce projet pour ensuite identifier les sujets qu'on voulait faire émerger sur la saison 1, donc avec des sujets extrêmement différents. Hein, ça va de l'agriculture et ses impacts, ça va de la démographie internationale, enfin mondiale, pardon, l'alimentation, bref, la biodiversité évidemment et la sixième extinction. Et on sort pendant le confinement, le avril 2020. Et ça a été un franc succès parce qu'effectivement, beaucoup de gens étaient disponibles à ce moment-là et aussi curieux du sujet. Et voilà, comme tu l'as dit, on est aujourd'hui à la cinquième saison avec une approche un peu différente. Les quatre premières saisons, c'était plutôt des formats longs, 30 minutes, où on explorait un sujet. Et là, on s'est dit qu'on allait faire un peu différemment. On a réduit à 15 minutes. Mais par contre, on a fait beaucoup plus d'épisodes. Et on part vraiment de l'arrivée de l'eau sur la planète, donc l'arrivée, enfin forcément de l'océan émerge, l'arrivée de la vie dans l'océan, pour ensuite explorer toute la biodiversité incroyable de l'océan, qui pour info est encore aujourd'hui très méconnue, on connaît que 10% de la biodiversité marine. Donc bon, en tout cas, de ce qu'on connaît, on en parle et on essaie de d'émerveiller les auditeurs sur cette incroyable biodiversité. Et on termine, on reste un peu anthropocentré quand même, on termine sur l'océan, pour le meilleur et pour le meilleur et pour le pire, avec les humains. Donc je vous cache pas qu'il y a pas mal de pires. Voilà, en tout cas, on balaye en 28 épisodes scientifiques ce sujet de l'arrivée sur l'eau, sur la planète, jusqu'au plastique, jusqu'au vortex de plastique. Et on entremêle, parce que c'était un... Je ne sais pas si vous allez souvent au muséum, mais au muséum, vous avez, dans une exposition, vous avez une partie scientifique, et on termine toujours par une approche un peu plus culturelle. Et donc là, j'ai proposé, un peu comme en regard de ce qu'ils font dans la vraie vie, j'ai proposé des lectures de textes littéraires. Littéraires, pas que littéraires, mais... Des lectures d'expéditions scientifiques, de contes d'Océanie et d'autres. Voilà, donc une fois par semaine, un épisode scientifique et le samedi, pour lâcher un peu prise, tous les 15 jours, un épisode littéraire qui est lu par un comédien, une comédienne. Voilà, et qu'est-ce que je peux vous... Ce qui est important, pourquoi les scientifiques ? Moi, ce que j'adore avec eux, c'est qu'ils sont habités par le doute. Ils sont humbles, vraiment. Et puis, tu en parlais tout à l'heure, Quentin, bah, ils sont certains. Pascal Joanneau, c'est 40 ans à observer le corail en Nouvelle-Calédonie. De s'en émerveiller, ou si je spoil un peu l'épisode, au début de l'épisode, elle parle de la nuit d'amour à la pleine lune qui fait naissance du corail. On a écouté l'extrait qui parle de cette symbiose parfaite. Et on termine effectivement avec le blanchissement du corail qui est dû à la hausse de température de l'océan, donc au dérèglement climatique. Mais malgré tout, la devise du muséum, c'est émerveiller pour instruire. Donc très souvent, pour chaque épisode, on essaie de raconter les merveilles du vivant. Et on termine malheureusement, et c'est leur rôle aussi, c'est aussi des lanceurs d'alerte. Donc ils ont 40 ans de métier à observer le corail et malheureusement, il le voit blanchir. Et donc voilà, on a cette double facette entre l'émerveillement, l'émerveil du vivant, comme le traite aussi Quentin, et comme tu le traites aussi d'une autre manière, et aussi ce constat d'alerte.
Merci Eric. On peut faire en fait un lien de cette volonté dans la dernière saison de Pour que Nature vive, d'émouvoir autrement en proposant une approche peut-être plus culturelle, plus artistique, en proposant des extraits littéraires. Et là, on en vient à Silence Podcast parce que c'est un peu le propos aussi de ce podcast qui a toujours cette volonté commune de sensibiliser au vivant, mais avec une approche et une forme narrative qui est différente. Silence Podcast a une approche peut-être un peu plus philosophique de la nature. Elle fait en sorte que l'auditeur et l'auditrice regardent la nature autrement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur ce podcast ?
Ouais, alors je dirais même que Silence Podcast n'a pas exactement la même vocation, parce que je ne suis pas sûre que ce soit dans les vocations initiales de sensibiliser au vivant d'une façon écolo, engagée et politique. J'ai rediscuté cet après-midi avec Aurélien et il me disait... C'est vrai qu'il y a cette idée de parler de transmettre un certain émerveillement, quelque chose de très sensible. Mais après, ça prend pas vraiment les gens par la main pour les emmener vers quelque chose d'engagé ou les convaincre à quelque chose. Donc déjà, je pense que l'intention est un petit peu différente. Et effectivement, après, dans la forme, en fait, ça s'adresse peut-être à des sensibilités différentes, quoique complémentaires. Et c'est vrai que, alors, donc même moi en tant que réalisatrice, je suis très, dans ma manière d'apprendre, je suis peut-être pas très scolaire. Enfin, j'apprends beaucoup au contact des gens et au contact des espaces. Après vous aussi, j'imagine, puisque après avoir un peu discuté, mais c'est vrai que la forme est très différente, quoi. On va apprendre au travers d'une expérience, d'un récit, et non de. C'est très différent d'un cours, quoi.
Ouais, ouais. Il y a moins ce côté apprentissage, pédagogie.
Et c'est vrai que je me rends compte là maintenant, mais c'est que ça me ressemble bien aussi parce que même à l'école, j'étais pas très, j'apprenais pas de cette façon-là. Voilà, après le côté sensible, je pense que ça vient aussi, c'est aussi un prétexte. Toi, tu parlais de prétexte pour apprendre des choses. Je pense que pour Aurélien comme pour moi, c'est un prétexte pour être dans la nature, être au contact des gens qui y vivent, et c'est un grand plaisir de le faire. Donc en fait, on partage ce qui nous anime.
Merci, voilà. Nathalie, on va écouter un extrait tout de suite qui s'appelle l'exercice philosophique de la marche.
Les montagnes sont une expérience qui gravite autour d'une énigme fondamentale. Ça constitue comme un appel, en fait. Dès qu'il y a de la montagne, je file, je grimpe, je crapahute, je me hisse. On a besoin de s'arracher au monde d'où on vient. J'aime me perdre dans les forêts, gravir une cime et surtout faire l'expérience d'une solitude. Je n'aime pas marcher avec beaucoup de monde, sentir la foule, ou disons le grégarisme, ça c'est quelque chose qui me déplaît. Il y a quelque chose dans l'expérience de la solitude de la marche qui nous ramène à quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose qu'on a perdu, oublié.
Voilà, on voit avec cet extrait qu'il y a quand même une dimension plus lente, plus contemplative de la nature. On est un peu dans une expérience sensorielle aussi, puisqu'on entend le bruit des oiseaux, on entend le bruit des craquements des feuilles sous les pieds. Enfin, voilà, il y a vraiment une autre approche, et presque du coup philosophique, comme le nom de l'épisode l'indique finalement. Ma première question, Nathalie, c'est... C'est quoi en fait l'enjeu d'un documentaire sonore? C'est quoi l'enjeu d'apporter à l'auditeur et à l'auditrice une expérience sensorielle du vivant et de la nature?
Je pense à plusieurs choses. Il y a le mot immersif qui a déjà été utilisé. Donc je pense que c'est l'objectif de se retrouver dans un environnement et de s'y croire. Peut-être pour se sentir proche de la personne qui parle et du coup de créer une connexion supplémentaire. Et puis après, sans doute le fait de pouvoir parler à des sensibilités, enfin, comme je disais, plusieurs sensibilités, et à des choses qui sont proches de nous. Donc voilà, en fait, se sentir proche du sujet, dans plusieurs connexions. Et après, je pense que c'est aussi parce que, en fait, moi, je dirais que je viens plutôt du travail sonore que du travail d'écriture et de sens. Et du coup, pour moi, c'est tout simplement la beauté des textures, l'arrangement des sons, les silences qui sont en fait des résonances des paroles qui ont été dites, tous ces, on va dire, ces détails, mais qui sont très importants dans la construction d'un documentaire, le rythme, en fait, comme dans la musique. On va dire que c'est efficace. J'aime pas trop ce mot, mais on va dire que le rythme, il apporte de l'efficacité dans la transmission du message. Voilà, c'est ce à quoi je pense. Et puis après, on en avait parlé un petit peu quand on a discuté avant, mais j'avais utilisé le mot habillage, et c'est vrai que habillage, même plus qu'un habillage, j'ai envie de dire ça peut être un petit écrin, une sorte de voilà, j'ai envie d'utiliser ce mot pour dire que les belles paroles, il faut qu'elles soient bien habillées.
Et du coup, est-ce qu'on peut parler d'audio naturalisme dans le Silence Podcast?
C'est assez proche, même si les audio naturalistes, ils s'y connaissent. Et je pense que moi, c'est pas mon cas. Enfin, j'écoute et j'aime écouter. Après, je reconnais pas les espèces, par exemple. Enfin, après, avec l'expérience un petit peu et justement en rencontrant les gens aussi. Mais les audio-naturalistes, j'ai l'impression, après, ils ont tous des démarches différentes, j'imagine, mais il y a une sorte d'envie de reconnaître, d'archiver, de cataloguer le vivant, qui n'est pas dans ma démarche. Même si les premières fois que je suis allée enregistrer, je me suis dit que ça avait un peu, pour rejoindre un engagement peut-être écolo, de me dire, ben, tiens, on archive des sons qui ne seront plus les mêmes plus tard.
Ouais. Exactement. Et ma question arrive parfaitement. Est-ce que toi, en tant que réalisatrice, et avec ce podcast et ce projet-là, vous avez peut-être remarqué des différences au niveau du paysage sonore, au niveau des différences de, je sais pas, de son d'une année à l'autre qui marque une profonde disparition des espèces et un changement de paysage sonore, en fait.
Alors moi, en tant que preneuse de son, j'aurais du mal à répondre précisément à cette question parce que je ne crois pas que je suis retournée, par exemple, enregistrée tous les ans à la même période au même endroit. Ça ne m'est pas arrivé et j'habite à Marseille, donc je ne fais pas d'audionaturalisme autour de chez moi. Je pense que les gens, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va interroger les gens qui vivent dans ces espaces parce que c'est eux qui sont plus à même de reconnaître ces différences-là. Moi, tout ce dont je peux parler, c'est de la difficulté de prendre un son sans bruit d'avion, sans tracteur au loin ou même dans les, enfin voilà, sans moteur. Toujours la question de savoir est-ce qu'on cache la présence humaine dans un documentaire ou est-ce qu'on est tout simplement honnête avec. Et après les autres changements, bah si j'ai entendu des anecdotes de personnes qui comparent différentes zones de la planète aussi en se nourrissant de l'expérience des plus anciens, l'expérience auditive des plus anciens. Moi je pense que je ne suis pas dans le métier depuis assez longtemps pour pouvoir vraiment répondre correctement à cette question, mais peut-être que les collègues ont aussi envie de répondre.
Moi je confirme qu'on a vraiment du mal à capter du son sans bruit de moteur, c'est vraiment très compliqué. Donc à part à 4h du matin, récemment on a fait un documentaire avec des enfants dans la forêt. Donc on est allé, je ne sais pas si vous connaissez le cœur de l'aube, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc le cœur de l'aube, c'est le moment entre chien et loup où, après le silence, les premiers oiseaux chantent. Et bien, figurez-vous qu'à 4h du matin, 24 mai, on tourne avec les enfants qui sont censés écouter ce cœur de l'aube. Et en fait, la première chose qu'on a entendue, c'est un oiseau de fer. Un bel avion qui nous a effectivement empêchés de tourner. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je confirme, la difficulté de tourner. Enfin, voilà, la pollution humaine est partout. Et sachez que les mésanges, par exemple, ont été obligés de changer de fréquence de chant pour continuer à communiquer parce qu'elles sont troublées par cette pollution humaine. Et voire même, j'en termine, Quentin, je te laisse la parole, et les tourterelles, elles, carrément, ne peuvent plus communiquer entre elles dans la forêt à cause de la pollution sonore humaine, et ça les empêche de se reproduire. Donc, essayons de faire un peu moins de bruit.
Quentin, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, j'ai appris récemment que ouais, sur les fréquences sonores, c'est trop intéressant ça, c'est que toutes les espèces qui sont dans un même écosystème, elles chantent, elles font des sons sur des fréquences très précises, ce qui fait que nous, on a l'impression que c'est le brouhaha, mais en fait, elles s'entendent pile poil bien, et que quand on vient mettre un moteur, un bruit ou un son nouveau, sans le savoir, on bloque la fréquence de son d'un paquet d'animaux, en fait. Et je me dis, mais c'est hyper intéressant. Voilà, c'est un truc qui est très très difficile à capter, enfin, même si nous, on est obligé d'extraire chaque son et pour pouvoir les entendre. Et bref, voilà.
Bah après, sauf pour le moteur, du coup, qui a un son très puissant, parce qu'en plus, il est dans les basses, et du coup, il se porte très loin, et il pollue beaucoup de choses. Enfin, il pollue tout, quoi.
Ouais,
Après, c'est génial. Moi, j'adore jouer avec des bruits de moteur pour faire de la musique. Mais c'est vrai que quand je suis dans la nature, en général, ça. Ouais, tu sens que ça. Même si c'est que situé dans certaines fréquences, en fait, ça porte loin, et du coup, pas top.
Il y a un moteur que je supporte plus, genre, j'habite dans les Pyrénées. Et le rotophile, la débroussailleuse. Mais ce truc est un enfer, quoi. Non seulement il est sorti, mais même quand il faut couper trois brins d'herbe, genre la peur de la ronce fait que on sort le rotophile tout le temps, et ça fait que on n'est pas nombreux dans le village, on est genre 80, on est vraiment pas beaucoup.
Il y a toujours un qui a.
Mais il y a toujours un qui se dit tiens, aujourd'hui rotophile.
Est-ce que tu vas aller voir du coup pour leur dire qu'il faut arrêter tout ça?
Bah non.
Non, tu vas pas aller voir.
Tu pourrais faire un épisode sur ton podcast.
Qu'est-ce que tu veux faire? Salut, tu coupes un truc? Ouais, j'ai le droit. Ah ouais, c'est vrai, t'as le droit. Donc, bah oui. Mais non, mais je passe la faux du coup. Je passe la faux et je me dis peut-être, du coup, ils se disent, oh bah oui, c'est vrai, c'est pas mal. Pour le truc des sons, c'est rigolo. Je passais la faux chez un copain et je tombais sur un type que j'avais jamais vu, qui était dans le jardin juste au-dessus et qui passait, lui, un autre outil sans moteur, qui est l'espèce de tondeuse à main, là, je sais plus comment on appelle ça, avec tondeuse hélicoïdale, voilà, qui juste coupe le truc. Et du coup, on pouvait discuter en coupant l'herbe. C'était vachement
sympa.
C'était vachement bien.
revenons un peu
au sujet.
Au sujet, même si c'était très intéressant. Du coup, avec la présentation de vos trois podcasts, on voit quand même qu'il y a une volonté commune, évidemment, mais qu'il y a des formes narratives et différentes, en fait. Et moi, ma question, c'est pourquoi utiliser des formes narratives différentes pour parler du vivant et pour peut-être émouvoir de différentes façons l'auditeur et l'auditrice pour toucher en fait un maximum de public. Parce que quand on parle de vivant et quand on parle de l'effondrement du vivant, on a envie d'en parler à beaucoup de gens et on a envie de toucher beaucoup de gens. Donc, est-ce que c'est important en fait d'explorer plusieurs formes narratives pour y parvenir ? Qui veut prendre la parole ?
Ouais, je pense que c'est essentiel. Moi, j'ai une question qui me taraude chaque jour. C'est mon fils a 10 ans et dans 10 ans, il va me dire alors que tu savais, qu'est-ce que tu as fait ? Donc, Estelle, on essaie tous les trois autour de la table et bien d'autres à trouver les formes narratives qui, et c'est une vraie difficulté, qui vont convaincre au-delà des convaincus. Donc voilà, on essaie chacun à notre manière de d'émouvoir, d'instruire ou d'émerveiller. Et on en a discuté un peu tous ensemble. Moi, j'ai une première piste, c'est que je crois beaucoup aux enfants, parce que c'est la future génération, et puis parce que si les enfants écoutent, on peut aussi embarquer les parents. Et tu parlais tout à l'heure d'être au plus proche du terrain. Et voilà, moi je crois que ce qui est important, c'est de s'inscrire peut-être dans des programmes dans le quotidien. Et voilà, j'ai fait par exemple, c'est pas pour citer, mais c'est juste pour donner l'état d'esprit. Petite graine, c'est un programme que j'ai fait, qu'on a produit pour 10 heures, où le principe c'était de manière très sensorielle, par la fiction, donner envie de découvrir les fruits et les légumes, comprendre la manière dont ils poussent, comprendre leurs bienfaits, et ensuite de les cuisiner en famille avec des recettes simples de grands chefs. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire de réunir parents et enfants dans le quotidien, découvrir les fruits et légumes, les observer, les goûter, les toucher. Voilà, et c'est cette expérience sensorielle qui fait que si on expérimente avec ses sens ces fruits et légumes, peut-être qu'on aura envie de les protéger à l'avenir.
Oui, merci. Oui, c'est vrai que la question du sensoriel, je pense que là, en tout cas pour Silence Podcast, donc c'est, je parle essentiellement du coup de l'écoute. Il y a l'envie de partager le plaisir d'écouter, même oreille nue, c'est-à-dire sans enregistreur, sans casque, pour les personnes qui peuvent se déplacer dans la nature et qui peuvent, enfin voilà, encourager à écouter. Je ne sais pas vraiment si ça peut être fait autrement que comme ça, en fait, pour répondre à ta question. Donc, différents modes de narration, oui. Moi, pour l'instant, je suis restée sur ce mode-là, mais ça dépend du coup quels sont vraiment les objectifs déclinés. Et il y avait autre chose que je voulais dire, mais ça m'a échappé.
Ça reviendra. Et toi, Quentin, avec La Vie Partout, tu as aussi l'ambition de toucher le public, le jeune public,
oui,
en fait.
C'est ça que je voulais dire.
C'est ça que tu voulais dire.
En fait, je voulais dire que aussi, je suis pas sûre qu'on soit à Silence Podcast. On est aussi un peu à contre-courant, et je suis pas sûre qu'on touche vraiment qu'on ait cette volonté de toucher le maximum d'audience très très large. En fait, il y a quand même une volonté de parler d'esprits rebelles, de grands espaces sauvages. Donc il y a un truc qui est pas très collectif là-dedans, et en même temps, c'est partagé en ligne, c'est écoutable. Donc c'est un peu entre deux. Voilà.
Alors moi, il y a deux trucs sur la forme narrative que j'ai choisi pour faire ce format là déjà c'est que ça prend vachement de temps dès qu'il y a d'autres gens. Donc du coup, quand c'est moi qui parle, ça prend déjà du temps, mais au moins, moi, c'est, je peux gérer mon emploi du temps tout seul, c'est bien. Voilà, bon, c'est toi ce qu'elle est avec Hugo pour pouvoir enregistrer, mais sinon ça va. Et sinon, au niveau de l'écriture, je considère, en tout cas c'est ma manière d'apprendre, que c'est toujours, je galère toujours à apprendre quand c'est une feuille, un bouquin. J'adore lire un livre pour apprendre des trucs, mais j'ai la sensation qu'il faut presque avoir comme plusieurs médiums qui permettent du coup d'imprimer la même information, mais sous différents... Comme si c'était un volume qui avait d'un côté l'audio, d'un autre côté le film, et encore de l'autre côté le fait d'être dehors. Et que quand on commence à cocher toutes ces cases et à refaire tout ce volume, et ben on atteint un but d'apprentissage. En tout cas, c'est comme ça que moi j'apprends. Et je me dis, bah, si je fais des vidéos, que je fais du podcast, et qu'ensuite je fais des trucs dans la nature, peut-être que du coup, j'arriverai à avoir un truc un peu complet. Et aussi, d'où le format immersif, je me dis que si c'est juste une voix ou juste quelque chose, c'est pas assez parce que la concentration, elle saute, etc. Et je me dis, il faut... par exemple, je dis un truc tout bête, moi j'aime beaucoup les plantes, et les plantes, quand elles sont dans un bouquin de botanique, je les retiens pas, quoi. Ça marche pas, genre ça n'imprime rien. Alors que quand elles sont... quand j'en tombe sur une plante dans l'écosystème, du coup, il y a l'humidité, le vent, il fait une certaine température, il y a une odeur, je peux toucher les feuilles, et là, d'un coup, je retiens direct, quoi. Et parce que ça enclenche plusieurs choses. Et du coup, je me dis, faut que la forme narrative enclenche plusieurs choses, un maximum de choses, pour que ça puisse être retenu.
Et tu as raison de dire que cette complémentarité des apprentissages, c'est difficile de le faire quand on est tout seul ou à deux. Enfin, en fait, c'est aussi une complémentarité des métiers. Et c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure sur le chêne et la compagnie des arbres, de qui rentre en jeu dans cette narration. La personne qui écrit, qui va faire des recherches sur le sujet, qui va faire... j'ai lu qu'il y avait souvent un comité scientifique qui peut vérifier aussi quelqu'un qui compose la musique, quelqu'un qui prend le son, quelqu'un qui nettoie le son, qui fait le montage, le mixage. Et en même temps, plus on travaille à plusieurs, je trouve que plus on écrit en prenant compte de cette complémentarité des apprentissages des autres, des auditeurs, en fait. Donc ça prend du... Ouais, voilà, c'est enrichissant, en tout cas.
Ouais, je suis trop d'accord. Enfin, je suis complètement d'accord. Quand j'écris, je suis trop d'accord. Hein. Quand j'écris maintenant, actuellement, j'écris plus pour les oreilles qu'avant. Je crois que c'était François Perrage que j'avais écouté dans un podcast qui s'appelle Il n'y a plus de papier et qui disait qu'il fallait écrire pour les oreilles. Qu'on va pas dire, si on fait de la fiction, on va pas dire et là, il prend la chaise. Non, on va faire le bruit de chaise. Et je me suis dit, ok, donc ça, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Écrire pour les oreilles. Sauf que moi, d'habitude, j'écris pour des vidéos ou des articles. Du coup, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même exercice. Donc, faut tout changer. Mais c'est vachement plus intéressant parce que du coup, Hugo, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité d'écrire avec du son derrière. Et quand il y a les deux qui se clipsent bien, j'ai l'impression qu'on peut, qu'on peut atteindre un truc intéressant. Et aussi, il y a des gens qui m'ont dit en commentaire qu'ils écoutaient avec leurs enfants. Et je me dis, mais si je peux faire du C'est pas sorcier, où en gros c'est totalement compréhensible par les enfants et toujours aussi intéressant pour les adultes, j'aurais l'impression d'avoir fait un truc bien, quoi. Voilà, si c'est trop compliqué, si ça commence à être technique, etc. Donc non pas que la complexité soit un problème, mais il faut que ce soit... si on veut intéresser le grand public, très souvent, ou intéresser des gens qui ne sont pas convaincus ou pas intéressés, il faut que ce soit simple, quoi.
C'est une bonne référence. Voilà. Moi, je suis sûr, il était une fois la vie en ce moment.
C'est bien aussi.
Merci.
Et puis les sens, l'émotionnel, c'est l'universel. Donc on touche au cœur. Et c'est ça qui, à mon avis, fait mouche.
Oui, je voulais en parler de ça, de l'universel par l'émotion, en fait, parce que tu l'as dit très justement la dernière fois dans une de nos conversations avant cette table, d'utiliser l'émotion pour parler de vivant aux gens, parce que c'est aussi comme ça que ça marche. Et c'est vrai que c'était très juste. Et je voulais aborder avec vous un dernier point, pareil, dont on a parlé ensemble avant cette table. On a parlé de devoir un peu de mémoire, d'archivage, mémoire du vivant, des sons du vivant. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, peut-être finir cette table ronde là-dessus, parce que je trouve ça important d'en parler, et je trouve ça assez beau aussi.
Ouais, Je pense que moi, ma démarche, elle a commencé plutôt par l'enregistrement que par l'écriture. C'est ce que je disais tout à l'heure. D'ailleurs, quand j'ai les deux docus que j'ai réalisés pour Silence Podcast, je les ai co-réalisés avec Mathilde Oisy, qui est journaliste. Et du coup, on a cette complémentarité. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé par enregistrer, et que ce soit des paysages ou même des sons ou des paroles de gens. Il y avait un peu cette idée-là. Je me souviens que les premières paroles que j'ai enregistrées, c'était toujours des personnes âgées. Parce qu'il y avait une sorte de volonté de se dire, tiens, c'est encore là, il faut le capter quelque part. Enfin, comme d'autres gens font avec la photo, en fait. Mais voilà, donc je dirais que ce qui se passe en portrait se passe en paysage, pour une autre référence photo. Et ça doit faire appel à ça, à l'envie de conserver, pendant que c'est là.
Quentin, Eric, une réflexion.
Quentin, tu parles de ta grand-mère, c'est maintenant, là.
C'est pas ma grand-mère, c'est ma voisine.
Monique, elle s'appelle Monique.
Ah oui, on parle de Monique.
Il doit parler de Monique.
Je sais pas si c'est le sujet.
On n'a pas parlé de cette chose d'apprendre des gens qui ne sont pas... Enfin, oui, c'est vrai que c'était peut-être moi qui en avais parlé. De l'intérêt d'apprendre des gens qui nous entourent.
Carrément. Et
qui ne sont pas forcément des scientifiques, même si c'est... bien sûr, les scientifiques passent leur vie à chercher. Et du coup, c'est instructif. Mais voilà, on parlait de Monique, qui a donc plein de connaissances. Et donc, c'est aussi un autre mode d'apprentissage, je pense, d'écouter les gens parler de ce qu'ils savent.
Ouais, et en fait, c'est même au-delà genre, de parler. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent. Le parler, c'est super, hein, mais faire des trucs, généralement, il y a peu de gens qui le font. Et c'est intéressant parce que ça fait que, du coup, il y a des savoirs qui se perdent parce que c'est le savoir du geste. Voilà, par exemple, tu peux lire tous les bouquins que tu veux sur comment couper un arbre. Si tu ne l'as pas fait, tu ne sais pas couper un arbre, en fait. Et du coup, c'est intéressant. Et moi, Monique, ma voisine, du coup, 70 ans, salut Monique, elle m'a appris à passer la faux. Et en fait, elle avait complètement pas oublié, mais juste, elle n'en parlait pas. Elle a été élevée dans une famille qui avait une ferme, etc. Son père l'obligeait à passer la faux, etc. Elle avait complètement mis ça dans un coin de sa tête. Puis moi, j'étais en train de passer la faux mal, avec une faux pas aiguisée, et Monique, je pose ma faux mal aiguisée contre un mur, et je sais plus ce que je fais, je me barre, et je reviens, Monique a passé la faux, m'a dit qu'elle l'a aiguisée, m'a dit qu'elle était très mal aiguisée, m'a expliqué comment l'aiguiser, et m'a expliqué comment la passer, quoi. Et du coup, c'était super intéressant, parce que ça a comme ravivé des souvenirs de ce qu'elle ne voyait plus, et puis du coup, on a enclenché un autre discours, parce que dans le jardin, dans la manière, tous mes savoirs sur les insectes, elle les a plus écoutés. Voilà, je sais pas, c'est très étonnant, quoi. C'est le geste, vraiment, c'est un truc à faire là-dessus. Je trouve qu'il y a une mémoire là-dedans et qu'on peut pas l'apprendre dans les bouquins. Et je me dis qu'en passant la faux, peut-être que je vais pouvoir aller interroger des gens qui me disent lui, il bosse bien. Et que du coup, voilà.
Et t'as la volonté, toi, de faire intervenir Monique dans La Vie Partout, par exemple ?
Je sais pas.
Là, je sais pas si vous avez vu le dernier épisode de Super Green Me. Je crois que c'est Nénette, pour le coup une grand-mère, qui raconte dans un village qui s'appelle le Cabanon comment la source est en train de se tarir et qu'elle n'a jamais vu ça, alors même qu'elle y vit depuis 50 ans. Ça participe à ce que tu dis, c'est-à-dire faire parler les anciens. C'est cette mémoire du vivant. Et l'épisode est à écouter, je vous invite. C'est accablant, mais c'est très bien fait.
C'est un projet que j'adorerais faire, en fait. Je trouve que, je ne sais plus qui disait ça, mais... en fait, il y a toujours la grande histoire des puissants, la grande histoire des bourgeoises, de gens qui ont pu documenter ce qu'ils faisaient. Mais les petites gens, en fait, on ne les écoute pas et il y a des savoirs qui se perdent. Quand on dit que les savoirs paysans se perdent, c'est parce que les gens qui savent faire les trucs meurent sans les transmettre. Et c'est une tristesse folle. Et surtout que c'est méga important, en fait. Ceux qui savent exactement comment tailler tel arbre ou tel machin, on pourra l'apprendre en école de paysagisme, mais en fait, ça fait que du coup, on perd des savoirs. Il faudrait documenter ça. Alors, si vous voulez documenter ça, voilà.
Après, c'est très juste ce que tu dis, mais dans la réalité, c'est peut-être un peu compliqué, des fois, de faire parler ces gens-là, parce qu'ils n'ont jamais été habitués à parler aussi. Il y a une sorte de timidité, de pudeur, peut-être.
Il faut avoir du temps, je pense. Il faut avoir du temps pour aller discuter, pour les connaître. C'est très long. Mm.
Mais c'est important.
Ouais. Parler aux vieux.
Faire parler les vieux. Ok. Un petit mot pour la fin, avant de passer aux questions.
Non, mais il y a un vieux copain de Radio France qui m'a dit un jour pour les meilleures interviews, c'est les jeunes enfants et les centenaires. Donc voilà, il paraît que la spontanéité avec l'âge revient. C'est pas si mal.
On va passer aux questions peut-être, si vous en avez. N'hésitez pas, c'est le moment. Il reste, je sais pas, il reste 10 minutes. Donc voilà, je vous laisse lever la main et j'arrive avec le micro. Ne soyez pas timide, c'est le moment. Oui.
Bonsoir, je vais essayer de la formuler, même si elle n'est pas encore bien formulée. Peut-être un peu plus pour Quentin, mais je pense que ça va parler aux autres. Autant sur le sujet dont vous parlez que sur le format, j'ai l'impression qu'on s'adresse quand même à un milieu un peu fermé, de gens un peu sensibles à l'écologie, à la nature, etc., même si ça tend à aller de mieux en mieux. Et par exemple, Quentin, quand tu parles des Pyrénées, où les gens passent encore le rotofile, la tondeuse, etc., comment tu envisagerais ou vous envisageriez de faire agrandir ce cercle de gens qui n'écoutent pas forcément des podcasts, qui ne sont pas hyper sensibles à la nature, d'aller voir justement ces gens-là qui sont peut-être la majorité, quoi.
Parce que je pense que c'est un truc de ville, le podcast, et la radio et les médias en général. Ces médias-là, pour moi, c'est censé réduire la distance qui nous sépare des écosystèmes dont on est coupé quand on est en ville. Et que c'est pour ça qu'ils ne l'écoutent pas, je pense. Aussi parce que c'est un média nouveau. Par contre, j'ai un projet de faire un jardin dans le centre du village où il y aura des choses, et là, par contre, ils seront là. Voilà, je pense que c'est ça le truc. C'est que, voilà, il existe les médias, c'est fait pour être une interface et pour réduire la distance, de mon point de vue. Et donc, du coup, voilà, j'imagine quand on interviewe un scientifique ou une scientifique, ça réduit la distance qui nous sépare de comment est-ce que je pourrais parler à cette personne. Voilà, de mon point de vue. Hein. Je ne sais pas si je réponds à la question.
Plus ou moins, en grande partie en tout cas. Mais du coup, tu penses que dans ton jardin, les gens qui passent leur autofile et la tondeuse, ils vont venir et ils vont s'intéresser, ou ça va être compliqué, ça va prendre du temps? Parce que je viens aussi de la campagne et je vois que les gens sont pas... C'est pas parce qu'ils sont dans l'écosystème
qu'ils s'y intéressent.
Ils sont plus sensibles, en fait. Voire l'inverse.
Oui, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Il y en a beaucoup qui sont complètement même presque hostiles, mais parce que... pour plein de raisons, quoi, qui sont très personnelles. La pédagogie, c'est un truc hyper ingrat. Hein. Il y a sur 100 personnes, il y en a peut-être que 10 qui seront accrochés. Tant pis, c'est comme ça. Et 10, je suis un peu optimiste. Faut rester, quoi. Enfin, faut garder le truc. Et après, on m'a dit aussi, il y a longtemps, si tu veux que les gens parlent, laisse-les parler. Et je me dis, mais c'est ce qu'il faut faire, je pense. Souvent, il y a une position très verticale des gens qui font des jardins ou des gens qui tiennent des fermes en permaculture, etc. C'est le sachant ou la sachante qui va déverser son savoir sur les apprenants. Sauf que le but de mon jardin, c'est aussi de créer un jardin sympa pour que les vieux se retrouvent, parce que la place du village, elle est un peu... c'est devenu un parking, en fait. Et je me dis, ok, je réponds aux besoins de faire un jardin qui soit utile pour tout le monde, et là, les gens parleront entre eux. Et ce serait pas le sujet, en fait, finalement. L'écologie, ça a pas de sens à partir du moment où on habite dans le truc, quoi. Voilà, je pense, mais...
Ça rejoint un peu ce que tu disais pour Petite Graine, c'est de créer du lien aussi, tout simplement, sans forcément avoir un but derrière de convaincre quelqu'un, mais tout simplement de rediscuter, de créer le dialogue, notamment autour d'activités comme la nourriture ou le jardinage.
Est-ce qu'il y a une autre question ?
Allez.
Pas de questions ?
Mais si.
C'était clair pour tout le monde ? Ça vous a apporté des choses. Vous êtes heureux et heureuse. Ok, très bien. Et ben on va conclure et on va conclure par c'est quoi la suite de vos projets? C'est quoi la suite de Pour que Nature Vive?
La suite. Déjà, on a encore des épisodes qui continuent jusqu'à mi-décembre. On verra pour 2024. Et là, on a un projet en montage. Où on a fait une expérience. L'idée c'était de vraiment faire entendre que les enfants spontanément se reconnectent très facilement avec la nature. Donc on est parti avec des enfants, une classe unique, dans le Vercors, bivouaqué, des gamins de 4 à 11 ans. On est parti plusieurs jours, donc nuit et jour, avec l'orage, avec la pluie, et avec les insectes, les oiseaux. Et ça marche. En fait, juste sans spoiler, mais les deux premières heures, c'était les filles contre les garçons, ils se tapaient sur la gueule. Et c'était horrible. On s'est dit avec la Réal, on a merdé. Et au bout de 3 heures, en fait, c'était l'émerveillement pendant 3 jours. Et c'était voilà. Donc là, on a 50 heures de rush, on est en montage, on va faire un 6x15 au montage. Et ça sortira, je pense, début janvier.
On peut connaître le nom ou
pas? Pour l'instant, le nom du projet, c'est Le Cœur de l'Aube. Parce que.
Ah oui, tu en parlais tout à l'heure.
Ça va être trop bien.
Très bien. Merci, Eric. Nathalie? Je passe le micro.
Je suis désolée, je t'ai oublié. Non.
Bonsoir. Moi, je suis professeure. Et du coup, je voulais savoir, par exemple, si, vu que vous parliez des enfants, des activités que vous avez faites avec des enfants, je voulais savoir déjà à quel âge commençait la conscience écologique. Et en ville, est-ce que c'est possible vraiment d'influencer les enfants, de tendre les enfants vers justement cette conscience écologique, sachant qu'en pleine ville, c'est très très compliqué.
Je ne sais pas à quel âge la conscience écologique arrive, mais en tout cas, ce que je crois, c'est que l'expérience dans la forêt, l'éveil des sens, fait la conscience écologique. C'est-à-dire que c'est... je crois que c'est, comment il s'appelle, Tesson qui dit ça dans La Panthère des Neiges. Il dit côtoyez la beauté et vous lutterez après pour la protéger. Voilà, ben, si ces générations, elles vont dans la forêt, elles expérimentent, elles sont en immersion, et elles observent les insectes, elles écoutent les oiseaux, elles ont des sensations et la mémoire s'imprime de cette beauté. Et je crois que c'est la meilleure manière de les embarquer dans cette conscience écologique.
Mais c'est vrai qu'en ville, c'est beaucoup plus difficile de les amener en forêt, par exemple. À Paris, typiquement...
Il y a de la nature en ville.
Oui, il y a les parcs, etc. Mais c'est vrai que je me demande vraiment comment je pourrais vraiment pousser les enfants à développer leur conscience écologique.
Je crois, enfin, si pour répondre vraiment, c'est je crois que en ville ou néo-ruraux ou enfants de la campagne, en fait, une fois que tu les mets dans la forêt, ça twiste quoi. Ils sont à faire des cabanes, à regarder les oiseaux, à les écouter, à les pister. Enfin voilà, on retrouve nos sensations d'antan. Et il n'y a pas d'enfants des villes, enfants des champs. Enfin, tu vois, je crois que c'est vraiment... Ceux-là étaient effectivement du Vercors et ils avaient l'habitude d'être en lien avec la nature. Mais j'ai un ami qui me raconte... Lui, il travaille avec des enfants plutôt des cités. Et il les embarque comme ça dans la nature. Donc ça prend un temps. Il y a bien un ou deux jours où il n'y a pas le téléphone. Ben, c'est frustrant. Et puis d'un coup, ça s'apaise, et là, la relation avec le vivant se fait et se reconnecte, et ça fonctionne vraiment, je crois.
Merci.
J'en profite parce que ça va avec. La conscience écologique, je ne pense pas qu'elle soit innée. Enfin, comment dire, j'ai l'impression que quelqu'un avait dit un jour que la conscience écologique, l'écologie ou la prise de conscience ou l'engagement écologique, c'est un deuil. C'est qu'on a perdu quelque chose. Et en fait, on commence à avoir tendance à vouloir préserver quelque chose parce qu'on a souffert de la perte d'un truc. Et qu'avant ça, du coup, je pense que quand on est enfant, il faut prendre conscience de ce qui nous entoure. Et c'est de voir ces choses qui nous entourent disparaître ou changer qui font qu'on va avoir envie de les préserver. Et que c'est comme ça qu'elle se construit avec l'affirmation du soi, je pense. Ça fait partie de moi, donc ça me fait souffrir que ça parte. En tout cas, c'est mon point de vue. Et voilà. Et quand j'entends parler les gens en fait, qui disent j'ai envie de faire quelque chose parce que je me rappelle quand j'étais petit, ils ont coupé l'arbre sous lequel on jouait, tu vois. Par exemple, je pense qu'il y a ça qui se joue beaucoup. Peut-être que c'est faux, hein, mais...
Je crois qu'Extinction Rébellion a ce discours-là et ils disent que justement pour agir, il faut faire les mêmes étapes que celles du deuil. Donc dépasser la colère, le dépit, je ne les connais pas par cœur, mais pour agir, il faut avoir dépassé ce stade-là. Et effectivement, ils en parlent.
D'où le fait voilà, que les enfants soient au maximum en contact avec des choses qui ressentent des émotions, avec ces choses-là, qui ressentent que la joie profonde, ils la ressentent en forêt, comme t'en parlais. Moi, j'ai fait quelques balades avec des enfants aussi, et pourtant, on est à la campagne, et il y en a qui sortent pas beaucoup de chez eux. Mais mine de rien, ça reste de fou. Et c'est le fait d'être coupé de ça qui fait qu'au final, je pense qu'on s'engage plus tard.
C'est un peu dur, du coup, de les préparer au deuil, mais en même temps...
Bah ouais, mais c'est la vie, hein.
C'est vrai.
À 2 ans, c'est jeune, hein.
On continue la petite suite de vos projets, peut-être. On finit comme ça avant de terminer, Nathalie.
Oui, alors pour Silence Podcast, je sais pas exactement quelle est la suite prévue. Après, j'en profite juste pour glisser un mot, parce que c'est vrai que on a parlé beaucoup de sensibles et d'expériences dans Silence Podcast, mais il y a aussi beaucoup de documentaires scientifiques et de reportages aussi. Donc peut-être que c'est quelque chose qui va être développé, mais peut-être que c'est Aurélien qui pourra en parler mieux que moi. Pour ce qui me concerne, moi j'ai monté une structure qui s'appelle Micromonde, récemment là, et qui ne vise pas à produire des documentaires, mais qui est en lien avec le son et le paysage sonore. Mais je crois que moi, je suis en train de fuir. Enfin, en fait, je travaille beaucoup sur la musique et la création de paysages sonores un peu fantastiques. Et du coup, je suis pas sûre d'être à la bonne table ronde. Non, pardon. Mais c'est vrai que moi, peut-être je gère le deuil en fuyant. Voilà. Donc je pars sur des territoires un peu concert, musique. Voilà.
Ok, super. Et Quentin, toi, tu vas inviter Monique, du coup. Bientôt. Bon, on arrête avec cette blague, non mais.
Non, mais génial, Monique. Grosse actu, attention, la saison 2 du podcast est sortie ce matin, enfin, le premier épisode. Il y aura un épisode par semaine pendant 6 semaines, à peu près. Et donc, podcast La Vie Partout, vous trouverez partout, c'est pratique. Et, sauf sur YouTube, mais un jour sur YouTube. Et le sujet du podcast cette saison, c'est l'automne. Parce que c'est l'automne. Et voilà, du coup, yes. Mais ce sera des sujets comme. Sujets tout bêtes, comme par exemple pourquoi les feuilles changent de couleur, avec de l'optique et tout dedans. Pourquoi est-ce que les feuilles des arbres tombent? Qui mange les feuilles des arbres une fois qu'elles sont par terre? Parce qu'il y en a qui les mangent. Et voilà, plein de choses comme ça. Ou est-ce qu'il y aura encore des oiseaux migrateurs? Ah, oui, non, on verra. Et voilà. Donc saison 2.
Voilà. Ça sort quand?
Alors, le premier épisode est sorti ce matin, à 6h du mat, programmé hier.
Ah oui.
voilà, donc il est sorti ce matin, le second sortira la semaine prochaine, etc. etc. Et tout à l'heure, tu parlais des poupées russes et d'avoir tous les épisodes sont complémentaires dans l'idée, mais s'écoutent seuls. Enfin, peuvent s'écouter seuls. Vous pouvez picorer dedans. Hein.
Merci. Merci énormément à tous les trois. Merci à vous d'avoir écouté cette table ronde. C'était un plaisir. Je vous invite maintenant à un apéro au Foyer Moderne. Mmh. Voilà, vous pourrez discuter, boire un coup. C'est le bar est free, quoi. Donc profitez-en. Et voilà, on se voit là-bas peut-être. Voilà, merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.